dans les temps, je vais vous libérer peut-être de votre cravate et des
trous. Oh, volontiers.
Je vous dis pour en rendre prisonnière, Daniel. Merci. Alors, il faut que... Ah, bah, tu fais que tu veux me faire quelque chose. Bah, tu vas Daniel Dupuis, balzacienne, elle aussi, et qui a consacré ses travaux à tout d'abord une sémiotique de la mode dans les plus de demeures de Balzac, avant de s'intéresser plus particulièrement à l'esthétique balzacienne et l'articulation entre pathétique, sublime et dérision. Et c'est pourquoi elle a choisi aussi cette perspective aujourd'hui avec art, passion et dérision dans la cuisine.
Le thème de l'art est récurrent dans l'œuvre de Balzac par le biais de la mise en scène dans la comédie humaine de l'artiste lui-même, écrivain, musicien, peintre, sculpteur, architecte même, ou du fait d'une réflexion théorique insérée tantôt dans la trame romanesque, tantôt dans des articles publiés dans les périodiques de l'époque, comme le texte intitulé « Des artistes », ou bien encore les lettres sur la littérature, le théâtre et les arts, ou dans les introductions suggérées à Félix Davin et à Philaret Châle, et bien sûr aussi dans les préfaces. Steinbock, dans La Cousine Bête, est le dernier artiste imaginé par Balzac, si l'on considère que Ponce et Schmuck, dans Le Cousin Ponce, ne sont que des interprètes et non des créateurs à part entière. Ce personnage retiendra d'autant plus notre attention que, comme l'a révélé André Laurent, il était destiné à jouer un rôle capital dans le premier volet des Parents pauvres. Le manuscrit, explique André Laurent, les variantes et les additions ne laissant nullement prévoir que Venceslas perdra l'intérêt que son créateur lui portait au début de la réaction de l'œuvre. Il nous a par conséquent paru instructif de constater ce qu'est devenue cette figure d'artiste, plongée dans l'univers paroxystique et passionnel de ce roman, dans l'enfer parisien, et non plus dans un cadre mythique, la Venise de Massimilia Denis, par exemple, sous la monarchie de Juillet, et non plus au début d'un XVIIe siècle révolu, comme dans le chef-d'œuvre inconnu. En effet, en adoptant une démarche présolienne, l'écrivain nous montre en Steinbock, me semble-t-il, un personnage façonné par son tempérament, confronté au jeu des circonstances et victime des mœurs de son époque. De surcroît, l'occasion nous sera donnée d'observer la permanence des convictions esthétiques de Balzac, mais aussi de percevoir un jugement lucide, désenchanté et souvent ironique sur son époque et plus ou moins consciemment sur lui-même en tant qu'artiste et en tant qu'homme, la créature révélant parfois à son insu son créateur. On a tendance à ranger définitivement Venceslas Steinbock parmi les artistes ratés de la comédie humaine. Cette opinion péremptoire demande à être nuancée. En effet, à ses débuts du moins, il est passionnément épris du beau idéal et tient à ce propos des discours enthousiastes devant sa protectrice, qui n'y comprend pas grand-chose, les traitant même de bêtises. Mais surtout, je cite, « fouetté par cette dure fille, image de la nécessité, cette espèce de dessin subalterne, Venceslas, né poète et rêveur, avait passé de la conception à l'exécution, en franchissant, sans les mesurer, les abîmes qui séparent ces deux hémisphères de l'art. » Alors, contrairement à Pierre Grassou, qui en se donnant un mal de galérien n'est capable que de produire de médiocres œuvres, il a sculpté un cachet d'argent, chef-d'œuvre sans défaut, dans le sillage de l'école de Raphaël, qui le hausse au niveau des plus grands bronziers florentins, nous dit le narrateur, et dans lequel le génie éclatait. Citons encore une admirable pendule, ou de Torchères, qui sont aussi deux chefs-d'œuvre incomparables, fruits de la pétulance et de la fougue intrépide du talent jeune, qui font de lui, de la vie de Steadman, un grand artiste. Le narrateur précise que ce brio se retrouve plus tard dans certaines heures heureuses, mais qu'il ne sort plus alors du cœur de l'artiste et qu'au lieu de le jeter dans ses œuvres comme un volcan lance ses feux, il le subit, il le doit à des circonstances, à l'amour, à la rivalité, souvent à la haine, et plus encore au commandement d'une gloire à soutenir. Effectivement, alors que plus tard, il semble avoir définitivement sombré dans l'oisiveté, la violente passion éprouvée pour Valérie Marneff sert fugacement de catalyseur à un renouveau créateur, si bien qu'Hortense surprend son mari au moment où il finissait de fouiller sa glaise avec cette rage qui pousse les artistes en puissance de fantaisie. Cet état de grâce, cependant, ne dure pas, Venceslas étant victime à la fois de son tempérament et de l'amour fou qu'il inspire à Hortense et à Valérie. Certes, effrayé par les propos du bonhomme Rivet concernant la tendance à la débauche des artistes, bête de bonne mère, s'est métamorphosé en marâtre. Mais la maternité tyrannique de celle-ci a eu pour effet positif de canaliser la nonchalance native de l'artiste, sa propension à la rêverie, et à le forcer à produire, car, je cite, « l'amour de la domination resté à l'état de germe se développa rapidement ». Si bien que la Lorraine surveillait cet enfant du Nord avec la tendresse d'une mère, avec la jalousie d'une femme et l'esprit d'un dragon. Ayant échappé à la passion despotique de la vieille fille, Steinbock retrouve la mollesse du Sarmat et le naturel propre au peuple slave reprend le dessus. On peut lire qu'il possède le courage, l'esprit et la force, mais frappé d'inconsistance, ce courage et cette force, cet esprit n'ont ni méthode ni esprit, car le Polonais offre une mobilité semblable à celle du vent qui règne sur cette immense plaine coupée de marécages. S'il a l'impétuosité des chasse-neige qui tordent et emportent des maisons, de même que ces terribles avalanches aériennes, il va se perdre dans le premier temps venu, dissous en eau. L'homme prend toujours quelque chose des milieux où il vit, affirme le romancier en fidèle disciple de Montesquieu. La constitution délicate de Venceslas, qui est un homme de papier mâché, ainsi que constate avec amertume Bette, n'arrange rien. À cela s'ajoute une bonne dose de vanité propre aux Polonais, que décidément Balzac ne ménage pas, et qui fait que le malheureux artiste succombe en quelque sorte à son succès, un succès à écraser les gens qui n'ont pas des épaules et des reins à le porter. Sa gloire prématurée, son importance, les éloges trompeurs que le monde jette aux artistes, comme on se dit bonjour ou comme on parle du temps, lui donnaient cette conscience de sa valeur qui dégénère en fatuité quand le talent s'en va. Balzac n'écrivait-il pas à Madame Anska en janvier 1845 « Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est de se laisser adorer ». C'est cependant la passion de deux femmes qui est le facteur déterminant entraînant fatalement l'artiste vers son déclin parce qu'elle réactive les tendances négatives de son caractère. Son mariage avec Hortense Hulot signe indubitablement sa perte. Sa protectrice l'avait pourtant averti. Vous aimez les femmes? Eh bien, fondez-en. Mettez vos désirs en bronze. Avec une jeune femme qui sera tout dépense, vous dissiperez tout. Vous ne travaillerez qu'à la rendre heureuse. Le narrateur se fait beaucoup plus explicite en déclarant « Les caresses d'une femme font évanouir la muse et fléchir la féroce, la brutale fermeté du travailleur. » Comme l'a noté autrefois Mechthilde Albert à propos de Steinbock dans un article intitulé « Désir, commerce et création » ou « Le dilemme de l'artiste balzacien », la source de la créativité sublimatoire de l'artiste se tarit à cause de l'assouvissement des désirs. Et l'inspiration, cette folie de la génération intellectuelle, est donc remplacée par la génération charnelle. Certes, le sculpteur perd son temps et son énergie lorsque, comme l'écrit euphémiquement Balzac, il batifole avec une femme adorée. Mais il est surtout victime de l'effet dévastateur du sentiment absolu qu'Hortense nourrit à son égard, en ce sens qu'elle avait pour son Venceslas la lâcheté maternelle d'une femme qui pousse l'amour jusqu'à l'idolâtrie. Nous retrouvons ici une idée familière à l'auteur de la Comédie humaine, développée en particulier dans La Rabouilleuse à propos d'Agathe Bridau, et selon laquelle les sentiments nobles poussés à l'absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus grands vices. Folle de son mari, aimant trop pour se faire le bourreau de son cher poète, comme l'avait été la cousine bête, la jeune femme le conforte dans la coupable inertie à laquelle le porte naturellement son caractère et s'aperçoit trop tard des fautes que son excessif amour lui avait fait involontairement commettre, lui cachant les tourments domestiques qui l'assaillent et les jugements négatifs portés par les critiques sur la statue du maréchal Montcornet. Si Hortense fut la première à dispenser Venceslas de tout travail, orgueilleuse de triompher ainsi de sa rivale, la sculpture, Valérie Mardef, éprouvant elle aussi une passion folle pour Venceslas, se montre plus ouvertement et plus cyniquement castratrice, lui suggérant de représenter Dalila coupant les cheveux de Samson, car, dit-elle, il s'agit d'exprimer la puissance de la femme. Dalila, c'est la passion qui ruine tout, insiste-t-elle, soulignant par là le caractère emblématique de l'œuvre puisqu'elle accepte de poser en Dalila. De même, la dangereuse Josepha présente une ressemblance significative avec Judith, puis mortel homicide peinte par Alorice. Pierre Lebrier note fort justement que, par une sorte de loi fatale, l'artiste sans vertu va vers celle qui saura flatter son défaut ou son vice et lui voudra sa ruine. Serpent fait femme, à cette différence près que l'offrande d'une tasse de thé a remplacé celle de la pomme, elle est d'autant plus dangereuse que non seulement elle a épousé pour son compte la haine de bête pour Hortense, mais qu'elle a toutes les séductions du vice. Venceslas, plus ivre que jamais de cette femme qui l'entretient dans la paresse, victime du déterminisme qui pèse sur lui, je renvoie au titre du chapitre « Jeune artiste et polonais que vous dévouquez le fit », n'est plus qu'un artiste manqué, parce qu'il lui manque l'énergie que lui avait insufflé bête pour se soumettre à cette habitude du labeur, cette perpétuelle connaissance des difficultés qui maintient les artistes en concubinage avec la muse, avec ses forces créatrices. Car le pouvoir d'exécution est un don, mais aussi le résultat d'une longue pratique, d'une discipline de travail. Et Baudelaire ne dira pas autre chose dans ses conseils aux jeunes littérateurs. La passion amoureuse dans ses excès nuit donc à l'artiste. Léon de Lora n'aimait pas une boutade lorsqu'il lance l'amour annule un homme. Le vrai génie est donc chaste, et comme le fait observer Pierre Lebrier, le rôle de la femme auprès de l'artiste est en définitive de redresser ses défauts et d'encourager ses qualités, alors qu'il reste fidèle à sa vocation. Aussi doit-elle être encore plus mère qu'épouse et que maîtresse. Passion et création sont donc antinomiques. Même l'austère d'Arthès, qui avait averti Lucien de Rubempré des sévères exigences de l'art dans Illusion perdue, parce qu'il est tombé follement amoureux de la princesse de Cadignan, ne produit presque plus rien, comme le révèle le dénouement des secrets de la princesse de Cadignan. On peut lire « La princesse a hérité de sa mère quelques fortunes, elle passe tous les étés à Genève dans une villa avec le grand écrivain et revient pour quelques mois d'hiver à Paris. D'Arthès ne se montre plus qu'à la chambre. Enfin, ces publications sont devenues excessivement rares. » Plus tragique peut-être, parce qu'elle est douloureusement vécue par Balzac lui-même et cette aphasie. « Il m'est excessivement difficile d'écrire. Ma pensée n'est pas libre. Elle ne m'appartient plus. Enfin, je suis sous l'emprise d'une passion sans analogue dans ma vie », confie-t-il à Madame Anska le 13 décembre 1845. Et quelques jours plus tard, il reprend « Je n'ai pas une idée, pas une volonté, je suis comme emporté par le désir et cloué sur place par la nécessité. » Un an plus tard, cet état d'oisiveté finit par être ardemment souhaité par celui qui avait pourtant affirmé que les grands hommes appartiennent à leur œuvre, car s'imaginant vivant auprès de la comtesse polonaise, il déclare « Je n'achèverai même pas les paysans, je n'écrirai plus, mon Dieu, une seule pense-là, je vivrai en rêveur et le plus heureux homme du monde, le chien de Moudjik, de mon loup, toujours près de toi, ne te quittant pas. » Mais peut-être faut-il tout simplement voir dans cet abandon une sorte de manifestation de l'instinct de conservation de la part de celui pour qui l'achèvement de son œuvre était devenu un lent suicide par le biais d'un travail insensé. Revenons toutefois à l'univers de la comédie humaine pour nous livrer à cette constatation ironique. La quête intransigeante de l'idéal, on pense bien sûr à Frenhofer ou à Gambara, ou celle du bonheur et de ses réalités beaucoup plus terrestres, aboutissent au même résultat, l'anéantissement de la production artistique. Néanmoins, la figure de Steinbock ne manquera pas d'être perçue, malgré tout, comme le repoussoir de son créateur. Il manque de volonté, comme Elchoët, son modèle potentiel, de qui Balzac disait « c'est un paresseux, un rêveur, qui mérite la profonde misère où il est ». Il est incapable d'un travail assidu, alors que l'on connaît les horaires démentiels que le romancier s'imposait. Il est dépourvu d'ambition, se sentant trop faible pour s'adonner à la grande sculpture, alors que l'auteur de la comédie humaine a su, pour reprendre le propos de Félix Bavin, joindre à la faculté de créer la puissance de coordonner ses créations. Il n'a pas compris, lui, qu'il fallait faire un type en représentant un homme ou une femme, et qu'il fallait aussi travailler pour payer ses dettes. En tout cas, l'évolution de la conception du personnage de Steinbock n'a pas été sans conséquences. Au fur et à mesure qu'il l'abandonne aux séductions de la passion et de la débauche, le romancier modifie son jugement sur ses productions. Ainsi, la statue du maréchal Montcornet est réellement détestable, car il n'a pas su y imprimer une âme pour faire un type. Louer son talent d'ornementiste devient une perfidie pour donner plus de poids à cette opinion que l'art sévère lui est interdit. L'orfèvrerie est désormais définie comme un art mineur, et la petite sculpture n'a plus rien à voir avec les grandes créations de l'art. Dans cette perspective, d'une admirable pendule, on passe à un délicieux groupe, gratifié d'une épithète, à notre avis quelque peu réductrice. Venceslas n'apparaît plus comme l'artiste enthousiaste et inspiré, c'est Valérie Marneff qui lui suggère l'œuvre à faire, ajoutant perfidement « J'espère que vous comprendrez le sujet ». Et même, semble-t-il, tout se passe comme si la dégradation du personnage rejaillissait infailliblement a posteriori sur son art, l'expression « grand sculpteur de petites choses » qui lui est appliquée au début du roman, n'étant peut-être pas dénuée d'ironie, l'écrivain sachant désormais la destinée qu'il réserve à son personnage. En outre, il apparaît nettement que la présence et l'activité de l'artiste dans la Cousine Bette sont inversement proportionnelles à la réussite des projets haineux de la vieille fille. Tandis que se déchaîne la passion vengeresse de celle-ci, Steinbock ne fait plus figure que de pion dans son jeu. Comme elle l'affirme à son amie Valérie, obtenir que son ex-protégé vienne se prendre dans les filets de la dangereuse courtisane est un sous-entendu qui fait partie de sa vengeance et auquel elle travaille et qui finit par se réaliser, si bien que, voyant le jeune homme totalement sous son charme et signant ainsi sa perte, Madame Marneff affirme « Ta vengeance est complète ». Si l'importance du personnage est devenue moindre par rapport au projet initial du romancier, la question du devenir de l'artiste et de l'art après 1830 demeure néanmoins cruciale. Le créateur, nous venons de le voir, en la personne de Steinbock, perd son aura. Son succès même apparaît comme quelque peu surfait, puisque, lisons-nous, c'est le baron Hulot qui, dans l'intérêt de son futur gendre, le lance et obtient tout. Ce dernier déclare d'ailleurs clairement à Venceslas « On a au lieu de la bienveillance pour mon frère et pour moi, j'espère donc réussir, en demandant pour vous des travaux de sculpture ». La création, dans Les parents pauvres, finit même par céder la place à une autre passion, celle de la collection. On songe bien sûr à celle de Ponce, qui lui offre de vives compensations à la faillite de la gloire, mais aussi à la bric-à-bracomanie d'un Balzac, tentant d'échapper aux affres de la création pour décorer sa maison de la rue Fortunée. Que devient en outre la passion désintéressée du beau à une époque qui, comme le déclare fièrement Abbette M. Rivet, voit le triomphe du commerce, alors que l'argent autrefois n'était pas tout et qu'on admettait des supériorités qui le primaient. L'œuvre d'art dans la cousine Bette, comme dans la vie, où l'on révère la toute-puissante pièce de 100 sous, est d'abord évaluée en fonction de sa valeur monétaire. Ainsi, la dot d'Hortense est-elle payée en commandes à venir. Auparavant, la fille du baron, à l'unisson avec son époque, a marchandé habilement le groupe de Venceslas, et comme l'a noté Philippe Lézour dans plusieurs textes de la Comédie humaine, l'art est entremetteur. Mais ici, en réalité, peu importe l'œuvre qui en fin de compte passe au second plan et se trouve dévalorisée. La jeune fille déclarant à son père « Si j'ai trouvé un mari, ce ne sera pas cher ». Les tableaux de maîtres prestigieux ornant le salon de Josépha et qui permettent à la baronne Hulot d'entrevoir la puissance des séductions du vice en en voyant les résultats ne sont nullement évoqués pour leur beauté mais pour la fortune qu'ils représentent globalement, 200 000 francs, car, commentaire significatif de la part de la cantatrice, le duc a mis là tous les bénéfices d'une affaire en commandite dont les actions ont été vendues à la hausse. Même constat à la fin du roman où l'on voit un tableau figuré comme simple monnaie d'échange pour le service rendu par Carabine à Madame Nourrisson et comme moyen de satisfaire sa jalousie à l'égard de sa rivale. Les propos échangés entre les deux femmes sont à la fois savoureux et affligeants. « Oh, je crois que tu as gagné ton tableau de Raphaël, mais on dit que c'est un mignard. Sois tranquille, c'est beaucoup plus beau. » On me dit que les Raphaël étaient tout noirs. Tant que celui-là, c'est gentil comme un girodé. Je ne tiens qu'à l'emporter sur Josépha, s'écria Carabine, et ça m'est égal que ça soit avec un mignard ou avec un Raphaël. L'ironie du romancier est flagrante, mais le lecteur des lettres adressées à Madame Anska, au même moment, est en droit de demeurer songeur en lisant, par exemple, sous la plume de Balzac, « Ce n'est rien que l'invention, le travail, le drame, c'est le paiement qui est tout. » Et en le voyant de manière récurrente, spéculer sur le prix de certaines œuvres d'art acquises ou à acquérir. On lit par exemple le 20 juin 1846, « Un attoir même mauvais vaut 1000 à 1200 francs. Le tableau de Bruegel que va être vendu, je l'ai acheté 130 francs et mon offre de 100, j'en veux 250 pour payer les frais de Rome. » Pour réussir sous la monarchie de Juillet, l'artiste doit en outre satisfaire le goût du bourgeois. Très réaliste, Bette plaide même pour un art utile en disant à Stenbock « L'argent ne s'obtient que par des choses faites et qui plaisent assez aux bourgeois pour être achetées. Quand il s'agit de vivre, il vaut mieux que le sculpteur ait sur son établi le modèle d'un flambeau, d'un garde-centre, d'une table, qu'un groupe ou qu'une statue, car tout le monde a besoin de cela, tandis que l'amateur des groupes et son argent se font attendre pendant des mois entiers. » L'art est donc menacé par le simili et le similaire. Ainsi, le logis de Crevel regorgeait de toutes les belles choses vulgaires que procure l'argent. Et le romancier note ironiquement qu'on aurait achevé les embellissements de Paris avec le prix des sottises en carton-pierre, on en a parlé tout à l'heure, en pâte dorée, en fausse culture, consommée depuis 15 ans par les individus du genre Crevel. Dans le domaine littéraire, il n'en va pas autrement. Balzac a eu beau proclamer en visant tout particulièrement Eugène Sue, le moment exige que je fasse deux ou trois œuvres capitales qui renversent les faux dieux de cette littérature bâtarde et qui prouveront que je suis plus jeune, plus frais et plus grand que jamais. Il a dû d'abord, pour les transgresser ensuite brillamment, se soumettre aux lois du roman feuilleton et imiter cette littérature qu'il exécrait. La cousine Bette reflète donc cette vision pessimiste et il n'est pas étonnant d'y voir le génie quitter le domaine de l'art pour se mettre au service des passions les plus mesquines. Ainsi, le génie inventif de Rivet, juge au tribunal de commerce de Paris, permet-il à la vieille fille d'avoir un pistolet toujours chargé contre son polonais et de le faire mettre en prison pour dette quand elle le voudra. Cette dernière, poussée par la haine et le désir de vengeance, excelle d'une autre manière, tantôt devenant le Mohican dont les pièges sont inévitables, tantôt régnant à la manière des jésuites en puissance occulte. Le baron Hulot doit satisfaire aux dépenses effrayantes inhérentes à sa liaison avec Madame Marneffe, mais Je cite, sa conception financière portait le cachet du talent qui guide les dissipateurs et les gens passionnés dans les fondrières où tant d'accidents les font périr. Et le narrateur d'ajouter, rien ne démontrera mieux la singulière puissance que communiquent les vices et à laquelle on doit les tours de force qu'accomplissent de temps en temps les ambitieux, les voluptueux, enfin tous les sujets du diable. Quant à la dangereuse Valérie, non seulement elle est capable d'improviser pour son vieil amant la comédie du sentiment moderne, mais Régine Bordery a cité l'image tout à l'heure, devront affronter une situation inattendue, à savoir l'arrivée intempestive du baron Montès, elle se montre aussi géniale que Bonaparte au siège de Mantoue. Le décalage entre le référent prestigieux et la situation équivoque à laquelle il est appliqué est certes amusant, mais il est aussi tristement significatif de l'abattardissement du génie et du talent tourné en dérision car désormais appliqué aux dessins les plus triviaux et les plus immoraux. Tous ces personnages sont doués de l'ardeur vitale dont il était animé lui-même. Toutes les âmes sont des armes chargées de volonté jusqu'à la gueule, écrivait Baudelaire à propos de l'œuvre de Balzac. S'il est un personnage qui doit faire exception à cette règle, c'est bien Wenceslas Steenbock dans La Cousine Bette. Victime d'une vieille fille frustrée qui, à la place d'un chat, d'un serin, d'un chien ou d'un perroquet, s'est donné un polonais à tracasser, d'un vieillard vicieux et sans scrupules, d'une petite bourgeoise débauchée et d'une épouse hautement idolâtre, l'artiste est mort en Wenceslas Steenbock, faute de l'énergie que lui a refusé son créateur et dont il est en quelque sorte le négatif. Sans énergie, mais non pas totalement sans avenir. Puisque Balzac, exhalant sans doute sa rancune contre ceux qui ne l'ont pas ménagé, métamorphose son sculpteur non seulement en artiste in partibus, beau parleur, ayant beaucoup de succès dans les salons, mais aussi en critique, je cite, comme tous les impuissants qui manquent à leur début. Donc potentiellement nocif pour ceux qui n'ont pas renoncé à leur vocation d'artiste, à la passion du beau, à la quête de l'absolu. Constat amer, mais exact, reflet d'une époque que l'analyste des mœurs de son époque a cessé de dire menacée par le petit matériel et moral.
Merci Daniel pour avoir inscrit ta réflexion sur l'actif dans une réflexion sur la question du grand homme, en quelque sorte. Et en effet, tu soulignes que